du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam. Et deuxième partie du coq à l'âne avec toujours Jean Cointe, Patrick Faure, Jean-Claude Hérault, les coqualiens du jour et notre invité Kevin Parra, président des LR05. Alors, je voudrais revenir sur, j'allais dire, comment on appelait ça, les alliances à géométrie variable. Visiblement, les LR ne veulent pas d'alliance, surtout pas avec l'ennemi. Donc on parle des LR, de la REM plutôt, avec les LR. Mais là, je voulais parler du Rassemblement National, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un accord qui existait entre les LR et le RN. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher, c'était lundi matin. Voilà ce qu'il disait, ce qu'il disait à la question qu'on lui posait.
Écoutez, ce n'est pas de la même nature, et je le dis, on ne peut pas s'allier avec Debout la France tant que Debout la France n'a pas renoncé à la stratégie qu'il avait conduite en 2017 à soutenir Madame Le Pen.
Pourtant, l'alliance, elle est actée.
Alors, excusez-moi, je vais faire le lancement parce que je ne vous ai pas dit exactement. Non, c'est ça. Donc, je vais refaire le lancement. Je reviens donc sur le sujet des alliances qui visiblement sont du côté des LR à géométrie variable. Avec cet exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, une alliance entre le candidat LR qui s'appelle Gilles Platret, je pense que tu le connais.
Absolument pas.
D'accord. Et Debout la France, le parti du Pont-d'Aillan, je pense que tu le connais.
Pas beaucoup.
Alors, écoutez ce qu'en dit Gérard Larcher, qui pour le coup a dû quand même un petit peu sortir les rames.
Écoutez, ce n'est pas de la même nature, et je le dis, on ne peut pas s'allier avec Debout la France tant que Debout la France n'a pas renoncé à la stratégie qu'il avait conduite en 2017 à soutenir Madame Le Pen.
Je suis
extrêmement clair. Vous ne pouvez pas ne pas dire que moi je ne suis pas extrêmement clair. Jamais d'alliance avec le Rassemblement National.
Alors, est-ce que ce cas, Gérard Larcher, a été abordé hier lors des deux réunions au siège des Républicains auxquelles vous avez participé, celui de la Bourgogne-Franche-Comté et de cette alliance?
Nous traitions hier.
Il y avait urgence d'abord sur
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais.
Mais sur le fond des idées, il n'y a pas un problème à s'allier avec Debout la France aujourd'hui et de créer tout un psychodrame sur une alliance avec En Marche.
On ne s'allie pas avec Debout la France.
Si, c'est acté.
Vous verrez les réalités. Vous verrez où est Debout la France. Si Debout la France un jour renonce à ce qu'il a conduit en 2017, mais ça n'est pas une alliance avec Debout la France. C'est pas une alliance. Pareil, j'ai moi-même dit à Gilles Platret ce que j'en pensais.
Vous lui avez dit de renoncer.
Que ce n'était pas mon choix en tous les cas.
Et que vous a-t-il répondu?
Écoutez, il m'a entendu. Nous verrons bien.
Est-ce que la Commission nationale d'investiture pourrait se poser les mêmes questions qu'elle s'est posée avec Renaud Muselier?
Écoutez, c'est un débat qui appartient. On a des structures. On a un comité stratégique. On décide pas tout de Matignon ou de l'Élysée, vous voyez. On n'a pas la centralité absolue dans notre vie politique. Mais je crois qu'on gagne à la clarté si on veut reconstruire la confiance dans la politique.
Alors, c'est bien de parler de clarté, mais sur ce cas précis, il y a quand même un vrai problème. D'un côté, comme le dit le journaliste, alors vous faites un psychodrame avec la REM et les LR, et là avec les LR et Debout la France, visiblement il n'y a personne qui dit grand chose.
Bon, je ne vais pas faire comme Gérard Larcher, mais je vais essayer d'être un peu plus clair. Numéro 1, aucune, en tout cas j'y suis totalement opposé, aucune alliance avec qui que ce soit. On représente des idées. Il y a des électeurs qui votent pour nous parce qu'on représente des valeurs. Alors au moins, au premier tour, s'il vous plaît, pas d'alliance. C'est le jeu de la politique, c'est ce pourquoi les gens sont dégoûtés de la politique, c'est ces espèces de petites alliances. Bon, donc archi contre. Numéro 2, on parle d'un gars qui prend un autre gars qui n'est pas du même parti politique, donc ça fait deux gars, sur des milliers de personnes qui se présentent aujourd'hui sur les listes régionales en France. Bon, on parle que de ça.
Oui, bien sûr, pour montrer l'exemple et le contre-exemple.
Eh ben, moi, je vous réponds, c'est pas parce qu'il y a une brebis semi-galeuse dans le lot, ou du moins qui ne s'adresse pas, parce que quand même, s'il fait partie d'un parti, il faut au moins se référer, il faut respecter les institutions, se référer au parti avant de faire des bêtises. Hein, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Mais enfin, voilà. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'autre chose, parce que pour deux personnes, on va masquer, mais ça je sais que les médias, je parle pas de vous, mais les médias au niveau national, non, mais les médias, regardez comment on nous a servi quand même. Bon, ça,
Jean ça a duré Castex, la semaine. Hein.
Jean Castex, alors là, il a fait un super coup médiatique. Mais enfin, pendant trois jours, on a parlé que de ça.
Jusqu'à aujourd'hui.
Et je rejoins totalement Jean-Claude là-dessus, mais quand même, qu'est-ce qui se passe en France à l'heure actuelle? Il y a des gens qui peuvent pas travailler, il y a du chômage, il y a encore la crise sanitaire, et on vient nous servir une semaine de psychodrame politique. Mais vous croyez pas que les gens n'ont rien à foutre de ça?
Et moi, je pense que non seulement pour moi, il a pas fait un bon coup médiatique, le Premier ministre. Il s'est dévalorisé.
Oui.
Aux yeux des Français, il s'est dévalorisé. Un Premier ministre, c'est pas ça.
Et ce que sa fonction. Hein.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tu as raison. Moi, là, je te rejoins aussi. C'est qu'il y a un premier tour. On n'est pas au deuxième tour, là. Il y a un premier tour. Laissons faire la démocratie. Laissons voter nos concitoyens. On verra bien entre les deux tours. Oui. Si effectivement, entre les deux tours, on se retrouve entre Muselier et Mariani, il faudra que nous, en tant que Français...
À chacun fera son.
Moi, j'ai des responsabilités, y compris dans l'économie sociale et solidaire. Pour vous rappeler ce qu'on a fait en 2015. En 2015, l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, j'ai réuni mon conseil d'administration. On a pris une délibération et on a appelé à voter pour M. Estrosi.
En tout état de cause.
Voilà.
Et pourquoi?
On verra bien, on prendra nos responsabilités.
Parce que si, ça c'est une conviction absolue, si demain le Rassemblement national... par l'intermédiaire de Thierry Mariani, qui est d'ailleurs l'exemple concret de ce que c'est qu'un politicien professionnel, c'est-à-dire retourner sa veste pour avoir des postes, si demain on devait avoir le Rassemblement National qui gère la région PACA, une des plus grosses régions de France et d'Europe, mais économiquement et socialement, ça serait catastrophique. Catastrophique. Il faut le préciser aux gens. C'est pas qu'une question d'idées ou de rancœur ou de vote à un instant T parce qu'on n'est pas content de la politique nationale et on veut le faire savoir. C'est un vote responsable qu'il faut avoir. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la région est bien gérée quand même.
Et tu es d'accord avec moi? Au premier tour, les gens choisissent.
Oui.
Ils choisissent démocratiquement pour qui leur sensibilité les amène à voter pour telle liste. Le projet aussi, parce que là, on parle de beaucoup de choses, mais le projet... On ne parle jamais du projet.
C'est vrai. Je le déplore.
Quel est le projet porté par Renaud Muselier? Quel est le projet porté par la gauche? Quel est le projet porté par le RN? On en parle rarement. C'est que des...
Le projet RN, c'est un projet sécuritaire.
Oui, ben ça, on le sait. De toute façon,
ah oui, non, mais bon, tu demandes...
C'est la fond de commerce, alors.
Voilà, donc on le sait. Et n'empêche que, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au premier tour, le RN sera devant. Il y a de fortes chances.
Oui, mais...
Ouais, mais tant qu'il n'y a pas voté, tu le sais pas.
Bah, bien sûr. Donc,
tant
bien
que
sûr.
Chacun n'a pas pris ses positions.
Ce que disait Jean-Claude, c'est que moi je rajoute que c'est les gens qui vont voter qui choisiront au premier tour. Mais le problème, c'est l'abstention qui risque d'être considérable.
Ouais. Ah, et ça, c'est un autre problème.
Et puis les électeurs, ils sont comme les gosses. Hein. Au plus, tu leur dis non, il faut pas puis, faire, ils vont le faire. Hein.
Et puis le climat social. Le climat social n'est pas bon. Il n'était pas bon en 2015, il est encore moins bon aujourd'hui. Quand on le voit avec les féminicides, enfin il y a quelques jours, hier le policier qui s'est fait abattre à Avignon, c'est scandaleux. Je veux dire, tout ça fait que ça alimente la haine, ça alimente.
Tout à fait.
Et c'est terrible, parce qu'on est quand même dans une république. La France, c'était quand même, c'est pas rien la France. Et quand je vois ces dérapages, moi je suis pas pour moi, mais pour les générations à venir, il y a du souci à se faire. Ouais.
Et on est constamment dans la réaction par rapport à ces événements-là, plutôt que d'être dans l'action, malheureusement.
Est-ce que par dernière à ça, question... c'est ça qui va créer le vote.
Je pense aussi que
ces derniers événements-là,
si je puis
ils
me permettre,
vont réorienter totalement les votes.
Il y a une surreprésentation populaire, parce qu'en définitive, on est un pays qui était de droit central, c'est-à-dire centralisé, et qu'on a mis très longtemps à mettre en place la décentralisation. Mais que malheureusement, on a multiplié le nombre d'instances, le nombre de fonctionnaires avec des compétences évidemment variées. Et aujourd'hui, les gens ne s'y retrouvent plus parce que, tu vois par exemple, un député de circonscription, maintenant, son rôle est assimilé à la portion congrue. Parce que, il représente quoi le député aujourd'hui? Il est là pour être dans cette chambre d'enregistrement qu'on appelle l'Assemblée nationale pour voter les lois du président.
Bon,
c'est clair qu'il faut restaurer un petit peu tel le fonctionnement, on va dire...
Recentralisant,
mais pas forcément, mais ayant une centralisation qui soit à la mesure de notre territoire, c'est-à-dire c'est pas parce que les Allemands ont réussi ça depuis des siècles avec la politique des Länder, qui sont des États semi-indépendants, qu'il faut que nous, on est centralisateurs par jacobin par essence. Et avant, ça s'est construit pendant la royauté, au moins pendant 8 siècles. Ensuite, Napoléon a mis encore à jour ce genre de bonapartisme de nouvelle manière, donc qui était en fait une centralisation. Et il a fallu, effectivement, même, je vais vous dire, Pétain avait l'habitude de dire que s'il était au pouvoir pendant longtemps, il ferait la France aux 40 départements. Donc on avait déjà un projet de resserrement, de regroupement. Mais cela étant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bordel parce qu'on n'arrête pas de voter et on ne sait pas pour qui voter, mais surtout pas pour le FN.
Le RN, s'il te plaît.
Bien sûr.
Rassemblement National. C'est bien que tu aies parlé de Napoléon.
Eh ben oui.
C'est bien.
Le bicentenaire.
Tu m'as fait une super transition.
Il est trop fort.
Je dirais Naples, Oléron, Aigues-Mortes, Acétylène. C'est une.
Waouh.
Un rébus.
D'accord. Alors, on a fêté donc le bicentenaire de la disparition de Napo. Ce cher Napoléon, c'était le 5, c'était il y a quelques jours.
Bonaparte.
Ouais, voilà.
Vous savez qu'au départ, c'est la République de Gênes qui concède à la France en 1768. Le territoire de la Corse, parce qu'ils avaient besoin d'argent, et cette concession devait être, on va dire, momentanée, provisoire. Et puis, évidemment, Napoléon est né en 1769. S'il était né avant, évidemment, il aurait été génois.
Et oui, et là, il est donc français.
Et oui.
Absolument. Et il est devenu le Napoléon qu'on connaît. Seule question que je pose, chacun donnera son avis. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on a bien fait de fêter le bicentenaire de la disparition de Napoléon? Parce qu'on entend des voix s'élever en disant, voilà! Napoléon, il faut plus en parler, hein. Alors, votre avis, Kevin, t'as un avis?
Aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. On peut plus parler de rien. Mais bien sûr que c'est important. C'est quand même un personnage de notre histoire commune. Mmh. Voilà, c'est important d'en parler. Enfin, regardez
ce
que Napoléon nous a légué.
Le baccalauréat dont on parle justement, c'est lui, le code civil. Ouais. L'arc de triomphe, c'est lui. Le ramassage des ordures.
C'est pas vraiment lui, c'était.
Ouais, mais pas à Marseille alors.
Et si, le ramassage des ordures, mais pas à Marseille.
L'arc de triomphe a été inauguré bien après sa mort.
Les lycées, les universités, il nous a légué beaucoup de choses.
Toute une classe de population qui étaient des conscrits qui ont été se faire tuer à Saint-Pétersbourg ou ailleurs à la Moscova.
Les conscrits 1815.
Ben, je sais que ça a été terrible pour la.
Il y a eu un million de morts aussi. Tu as oublié de le dire. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Pour moi, c'est un criminel comme Hitler, toute proportion gardée.
Par contre, il faut tout dire.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut. Parce que souvent, les personnages comme ça, même Jules Ferry, on veut enlever à un moment donné, on célèbre, parle, et puis d'un coup, on trouve une ligne, un point noir dans son histoire, et on veut enlever les noms des écoles,
Voltaire, quand il s'agissait de déboulonner des statues,
ça fait partie de notre histoire, quoi, puis voilà, donc.
Faut remettre les choses dans leur contexte.
Il faut assumer.
On n'est plus dans le contexte de l'époque, donc on peut pas ramener ça à notre contexte à nous. Et en plus, notre région a été fortement impactée avec la route Napoléon.
Bon, j'espère qu'un jour, on célébrera le bicentenaire de Jean-Claude Hérault. Et on dira...
Souvenez-vous.
Et Jean qui sera encore là nous dira « Souvenez-vous, le coq à l'âne. »
Moi, je l'ai connu.
Comment tu m'appelais d'ailleurs? Tu me donnais toujours un surnom.
Le crypto-communiste, il t'appelait. Tu le sais bien. Bon, allez, c'est l'heure de notre point vaccin. Ah, notre point vaccin avec Louis Albran qui est au bout du fil avec nous. Salut Loulou.
Bonjour Thierry, bonjour à tous mes amis cocaliens.
Alors Louis, 24 millions de doses administrées en France, 16,7 millions pour la première, 7,5 millions pour la deuxième. On n'est quand même pas au top du top, hein, parce que je regardais, les Allemands, ils sont à 32 millions.
Ben oui, j'ai parlé ce matin avec des amis chefs de service parisiens qui parlent d'un véritable Waterloo vaccinal, on va pas assez vite.
Eh oui, mais pourquoi l'AstraZeneca, il y a 4 millions de Français qui l'ont touché, il y a eu 9 cas suspects sur 4 millions, mais zéro preuve d'un lien, évidemment, et néanmoins, il y a 78% des Français qui n'ont pas confiance en ce vaccin, on va jamais s'en sortir.
Hein. Oui, c'est les fameux 30% de Français qui sont anti-vax, et on pensait qu'ils allaient évoluer, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de soignants parmi eux, et c'est très regrettable, et ça va être long. Et il y a encore 300 morts en moyenne par jour, et ça va... Je crains que ça soit comme ça tout l'été. J'ai vu que hier, le nombre d'entrées en réanimation a encore notablement augmenté. Donc, moi, je suis à nouveau inquiet pour la pérennité de cette pandémie.
Dans les Hautes-Alpes, ça s'améliore, Loulou.
Dans les Hautes-Alpes, ça s'améliore énormément.
Et puis, le fait qu'on ait l'accès, là, tout au moins au plus de 18, toutes catégories confondues, ça va
s'accélérer, oui, machine, bien sûr. Ça,
tout à fait, oui. Mais il faut, comme on l'avait dit il y a quelques émissions, il faut arriver à 90% de la population entre les vaccinés et ceux qui ont eu une immunité suite à la maladie pour que le virus s'en aille. D'ailleurs, quand on a la grippe, quand on a le rhume d'hiver, il s'agit, comme vous le savez, d'un coronavirus.
Oui, oui.
Et ce coronavirus, maintenant, les généticiens savent qu'il y a quelques années, de nombreuses années, ça a été un virus très
virulent.
très contagieux, très virulent. Et vous voyez, avec le temps, il s'est amoindri, c'est devenu un banal virus qui provoque un rhume.
Exact.
Et je pense que notre coronavirus actuel aura le même destin.
Une dernière chose, Loulou, je voudrais ton avis là-dessus, toi qui es médecin. Le port du masque qui ne serait plus obligatoire dans certaines villes ou dans certains lieux, je trouvais que c'était un peu dangereux. On sait que dès
c'est
que les terrasses...
C'est une hérésie, tu as tout à fait raison.
On sait que les terrasses vont rouvrir dans pas longtemps et on sait que ça risque de partir en sucette parce que ça va être la teuf. Et est-ce que c'est pas un mauvais message envoyé aux Français de dire allez, dans certaines villes, on enlève le masque dehors, de toute façon, ça sert à rien.
Un message irresponsable pour ne pas employer un qualificatif plus élevé. J'allais dire un message dangereux. Il faut garder le masque absolument et rien ne prouve que lorsqu'on est vacciné, on ne transmet plus la maladie, notamment par les mains, etc. Donc, continuons les distances de sécurité et le masque, et ainsi on passera un été tranquille.
Une question avant de te quitter, politique. J'ai entendu dire que tu serais tête de liste RN au régional sur le département des Hautes-Alpes.
Absolument, c'est une nouvelle que Alpe 1 vient de confirmer à l'instant. Je suis tête de liste avec Thierry Mariani, qui est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je pense que moi, je ne suis pas membre ni adhérent du RN, mais je suis depuis de nombreuses années adhérent de la droite populaire, et je pense qu'aujourd'hui il y a ce besoin de retrouver des valeurs régaliennes, des fonctions régaliennes plus efficaces. Quand j'entends d'ailleurs un député de la France, de la République En Marche, qui disait il faut mettre des structures pour protéger les gendarmes et les policiers. Alors les gendarmes et les policiers sont là pour protéger le peuple, les gens. Voilà. Donc si on a besoin de les protéger, c'est qu'on leur a enlevé toute légitimité.
Louis, voilà. on est avec notre invité qui est Kevin Parra, le président des LR. Une question à te poser.
J'aimerais simplement dire, effectivement, il ne faut pas diaboliser un certain nombre de sujets qui aujourd'hui, force est de constater, inquiètent énormément un certain nombre de nos concitoyens. Et ça, moi je ne diabolise personne, mais, et là il y a un mais, ce ne sont pas des questions régionales, ce sont des questions nationales. Je pense que sur une élection régionale...
Oui, je sais bien, mais notre ami Thierry me demandait ma motivation, pourquoi j'avais rejoint Thierry Mariani.
Il y a des questions
nationales, comme vous le signalez,
oui.
Il y a aussi des questions régionales, par exemple la faillite dans les transports. Moi j'habite un petit village dans la gare de Mont-Dauphin, bientôt il n'y a plus de guichet. Quand je vais à Paris la semaine dernière, j'ai pris un car qui m'a pris 11 heures entre Veynes et Paris. Donc on ne peut pas dire que la réussite, par exemple, je prends un exemple, il y en a d'autres.
Il y a des choses qui ont été faites là-dessus par Renaud Muselier.
Il y a des choses, mais je vais.
Bien sûr, non,
je vais
mais ça
avoir
va
le
pas
temps durant cette longue campagne d'établir mon programme.
Tout à fait, mais vous concéderez comme moi, j'espère, que depuis la présidence de Renaud Muselier, je précise bien Renaud Muselier, par les prédécesseurs, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites, et notamment pour notre département. Alors forcément, c'est jamais assez, mais de là, et là ça nous fera un point de différence, à voter pour une liste que je ne diabolise pas, mais qui je pense n'a pas les compétences pour gérer la région, et qui fait essentiellement des sujets nationaux une campagne locale, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Mais
non,
bon.
Non, absolument pas, je ne peux pas vous laisser dire ça. D'ailleurs Thierry Mariani, à l'instant, vient de développer déjà un début de programmes, par exemple la création d'un CRT Alpes uniquement pour le 04 et 05. Alors actuellement, le CRT s'occupe surtout de Nice, etc. Donc, s'occupera de développer les stations de ski, du tourisme dans les villages, etc. et permettra une plus juste répartition des crédits. Non, notre liste aura un programme local. J'ai seulement expliqué à mon ami Thierry, c'est dit pourquoi je m'engageais avec Mariani. Et pour des raisons de politique nationale.
Loulou, on aura l'occasion d'en reparler, absolument. Merci,
au revoir, amis,
merci
Louis,
merci,
bonne journée,
merci, ciao. On va terminer avec une dernière question sur la lutte contre l'insécurité, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais aussi bien au niveau local, qui est peut-être étrange, qu'au niveau départemental, régional et donc national, c'est la priorité des Français pour chaque élection. Aujourd'hui, ils mettent en avant, c'est pas la crise sanitaire, hein, ils mettent en avant 86% d'entre eux, c'est le thème le plus important, et notamment, bien sûr, pour les présidentielles de l'année prochaine. Et chaque semaine, on est confronté à cette violence, à cette insécurité.
On
qui...
va pas le nier, hein.
Non,
mais l'augmentation de la violence.
On peut comprendre que ce soit un des thèmes des Français, quoi.
Là où ça m'inquiète beaucoup, c'est que le RN alimente l'augmentation de la haine.
Évidemment, ça ne peut qu'aider le RN.
En alimentant la haine, que tu vas la faire tomber la violence. Ouais, c'est ça qui me fait peur.
Jean-Claude, juste une chose, c'est dans les situations qu'on a vécues hier, où on voit le bonhomme qui a un bracelet électronique qui va foutre le feu à sa femme. Ouais. Je veux dire, ça fait déjà 4-5 fois que fout la justice, quoi. Ouais. Je veux dire, moi, les gars...
Alors, bonne question. Bonne question. Que fout la justice? Ça veut dire que ce mec, en fait...
Pour moi, il doit
rester à vie.
Direct.
Il doit rester à vie en prison.
Ouais, ce que tu veux. Non, mais il faut... me dire que c'est à peine de mort.
Attends, Patrick.
Non, mais je te dis, oui, ce gars-là, oui, mais pour moi, il relève de la psychiatrie. Donc, je veux dire, c'est pas parce que il est croyant ou quoi que ce soit qu'il est bien dans sa tête, quoi.
Mais le problème,
dire, quand il pousse, le vice à être un mari jaloux, c'est reconnu, il fracasse sa femme, il lui fout le feu en dernier recours.
Franchement, on est d'accord.
Il y en a un paquet. Donc, ce gars-là, il faut s'en occuper, peut-être de manière très dure. Ben ouais, désolé, mais c'est pas pour ça que faut aller sur le RN justement pour trouver des solutions.
Ouais, mais ça, ce sont des faits divers qui amènent
à la haine
sur un plateau, hein. Ouais. Kevin,
non, moi je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est un point là pour le coup peut-être de désaccord entre la gauche et la droite. Nous pensons qu'il faut être beaucoup plus sévère. Comment voulez-vous aujourd'hui, je dirais, démotiver un délinquant? Quand on sait que les peines qui sont en dessous de 2 ans ne sont pas effectuées, que quand il y a un crime de commis, on va chercher à regarder l'état psychologique. Et qu'en fonction de cet état psychologique, on va peut-être lui prescrire des soins. C'est tout à fait normal, attention, je dis pas le contraire. Mais du coup, on va le laisser dehors ou à moitié dehors avec un bracelet électronique. Mais c'est scandaleux. Comment voulez-vous que les gens se sentent en sécurité dans ces conditions-là? Il faut quand même recadrer. Quelqu'un qui a fait une bêtise, il faut le punir. Il faut le punir. Il faut pas avoir peur de ce mot de punition. Et c'est que en recontextualisant peut-être les choses et en étant plus sévère avec les délinquants, avec les criminels, que nous arriverons à faire en sorte que les Français aujourd'hui se sentent un peu plus en sécurité.
Tout simplement, en appliquant la loi, ça suffirait, hein, parce que souvent beaucoup de personnes sont relâchées parce que par manque de moyens.
On est d'accord, ça aussi, ça c'est un vrai problème.
Après construire des prisons, c'est pas un gros mot, et justement, il faut se retrouver autour de ça. C'est pas forcément des prisons, ça peut être des centres d'incarcération où effectivement, tu as soigné les bonhommes. Par contre, il y a de la contention.
Il y a une partie de la justice aujourd'hui qui est politisé aussi, hein. Oui,
c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça ne pourra pas marcher tant qu'on aura la majorité des membres du principal syndicat de la magistrature qui sont à gauche, quoi.
Déjà, de vous à moi. Franchement, ça serait
même chose. Vous ne pouvez pas terminer l'émission sans balancer.
Non, mais il a raison. Comment voulez-vous aujourd'hui? Ça paraît, bien sûr, c'est typiquement français, ça. Mais aujourd'hui, sincèrement, qu'il y ait un syndicat de la magistrature. D'ailleurs, s'il était à droite, je dirais la même chose. Mais je trouve ça scandaleux. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on ait...
Mais c'est pas par rapport au syndicat de la magistrature que ce gars est allé cramer sa femme. Cramer sa femme, pourquoi? Parce que la justice et la police n'ont pas fonctionné. Il y a une enquête qui est en cours. Ils ont commencé à donner les conclusions ce matin. Il y a eu un dysfonctionnement entre la police et la justice.
Jean-Claude, pour le
c'est
coup...
C'est pas lié au syndicat de la magistrature.
Pour le coup, c'est un dysfonctionnement. Mais ça, c'est un cas bien précis.
Alors, c'est un manque de moyens, vraisemblablement.
Écoutez-moi. Il avait pris 2 ans de prison. Ouais. Je crois qu'il a fait 3 mois ou 6 mois, je veux dire.
Et il est sorti.
Il est sorti. Mais revenons à ces 2 ans de prison. S'il fait ces 2 ans de prison, rien ne l'empêche 2 ans après, mais de faire ce qu'il a fait aujourd'hui 6 mois après. Arrivé à un moment, il y a des gens comme ça, tu auras beau faire ce que tu veux, de toute façon, ils ont une idée en tête. Lui, il avait son idée en tête. Son idée en tête, c'était de tuer sa femme, de toute façon.
Il faut l'enfermer bien plus longtemps.
Eh ben oui, mais tu l'enfermes à vie.
Ça relève de la psychiatrie. Mais à ce propos, il faudra qu'un jour on en discute. Parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit tout à l'heure que la première priorité des Français, c'est la sécurité. Ouais. Il y a une autre priorité qui me remonte très fort, c'est la santé. accès à la santé. Aujourd'hui, savez-vous qu'on n'a plus que 3 psychiatres dans les Hautes-Alpes, ouais. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies mentales et on a de moins en moins de psychiatres. Ouais. C'est quand même une situation. Et après, on s'étonne qu'il y ait des dérapages. Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, de dérapages par rapport aux risques qu'on prend. Parce que hier, on avait une réunion avec l'ARS sur la santé mentale. Comment on va se structuré dans le département, quand je leur dis mais attendez, on n'a plus que 3 psychiatres et
Jean-Claude,
encore...
Non, mais tu parles de santé mentale, tu as raison, mais moi je parlerai très simplement de santé tout court. Quand on voit qu'il y a des milliards qui sont un petit peu trouvés à droite à gauche pendant cette crise qui est un peu exceptionnelle, mais pourquoi on ne les a pas mis avant et pourquoi d'ailleurs on ne les met pas de manière plus conséquente sur le secteur de la santé aujourd'hui, et notamment dans les Hautes-Alpes. Ça c'est une question.
Eh ben, on donnera la réponse une autre fois, parce que là, on est arrivé au bout.
Moi, ce que je voudrais dire, si vous permettez, c'est que, malheureusement, la politique gouvernementale devrait être beaucoup plus drastique, et beaucoup plus stricte, et beaucoup plus sévère. On l'a vu dans d'autres temps, par exemple, je te parle de la commune de 1871, avec les Versaillais qui ont écrasé les fédérés. C'était un coup d'État communiste qui a été écrasé dans le sang. Donc au Père Lachaise, puisque les derniers fédérés ont été fusillés à bout portant, quoi. C'est vrai que quand tu as un gouvernement autoritaire, bon, il faut pas... Moi, je me rappelle De Gaulle, en 1962, dans le cadre des émeutes du métro Charonne, il y a eu peut-être 30 ou 40 morts. Ouais. Bon, mais c'est clair qu'à un moment donné, il faut quand même avoir une riposte qui soit graduée et qu'on ne prenne pas nos forces de l'ordre pour des rigolos, c'est-à-dire qu'on ne les respecte pas, quoi. Bah, et qu'on leur tire dessus à bout portant.
Alors, aujourd'hui, c'est
pas admissible, je suis d'accord avec toi.
C'est ce qui arrive et donc, c'est ce qui est encore arrivé à ce policier à Avignon.
Donc il faut malheureusement que, moi je le dis toujours en plaisantant, c'est une galéjade, mais ils ont qu'à envoyer une escouade de la Légion étrangère dans ces quartiers un peu chauds, tu vas voir. Mon père me le disait parce que lui, il parlait des Allemands, parce qu'il avait vu opérer les Allemands pendant la guerre.
Et... Pour répondre à ta dernière solution, écoutez.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
Bravo, c'est la bonne conclusion de l'émission.
Je me suis quand même dédouané avant en vous disant.
Mais oui, je sais.
Pour la galéjade alors.
Mais je sais bien, mais c'est pour ça. C'était pour terminer sur une note sympa. Tu voulais dire un dernier mot,
oui,
Kevin.
Oui, simplement, merci. Ça a été un réel plaisir d'être parmi vous et que ça fait du bien d'avoir un peu des moments de parole libre.
Voilà, tu vois.
J'étais très heureux.
Et tu reviendras.
Quand tu me réinviteras, avec grand plaisir. Merci.
Ok. Kevin Parra a été président des LR05. Était notre invité. Autour de la table, Jean Coin, Patrick Fort, Jean-Claude Hérault. Merci messieurs et merci. À la semaine prochaine.